Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti,
avec à la réalisation Nancy Zottier. C'est la rentrée, la reprise, les perspectives d'une nouvelle saison de cette émission. Une émission mensuelle parlant des droits humains, pourquoi ? Parce que les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont et doivent demeurer universelles et indivisibles. Parce que de multiples sujets de société interpellent les citoyens dans leur vie quotidienne, amenant des questionnements sur nos modes de vie et de pensée. Parce que de nombreuses associations ou intervenants de la société civile s'engagent pour faire respecter et évoluer ces droits, pour informer chacun de sa capacité à les connaître et à les défendre. Face aux violations de la dignité humaine, la communication, l'information sur ces sujets demeurent indispensables pour éveiller les consciences. La curiosité est aussi un moteur pour aller à la rencontre des personnes engagées que sont les invités de cette émission. Nous les remercions de répondre à nos sollicitations tout au long de l'année et de se prêter au jeu des questions-réponses. Aujourd'hui, démarrons la saison 2023-2024 en musique, sans invité. En effet, pour cette émission de rentrée, seront évoqués, en rétrospective, les thèmes abordés au cours de la dernière année en privilégiant les illustrations musicales. C'est un choix d'insérer des pauses musicales lors des émissions, comme des respirations, mais aussi comme des illustrations des thèmes évoqués. Ce soir, ce sera l'inverse. Nos propos présenteront ces chansons dites engagées. Renaud, premier thème, altermondialisme et économie sociale et solidaire, quel monde pour demain ?
Avec le réchauffement climatique et l'épisode de sécheresse que nous avons connu l'été dernier, avec l'épisode du Covid qui a mis à mal notre système de santé et bouleversé les rapports sociaux, avec la guerre en Ukraine qui déstabilise l'économie et l'équilibre géopolitique mondial, mais également avec la réforme des retraites qui soulève la question de la rémunération du travail, de la répartition des richesses et de la justice sociale. Avec tout cela, l'humanité vit une profonde remise en question du système productiviste et consumériste dans lequel nous vivons. Un système basé sur la compétition et le libre marché, sur une logique financière qui enrichit une minorité et appauvrit la majorité de la population de la planète. De fait, ce système se montre inadapté et incapable de faire face à la crise mondiale que nous traversons. Aujourd'hui, chacun se pose des questions. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu ? Quelles sont les activités qui sont au service de la collectivité ? Quels sont les métiers qui ont vraiment du sens et sont indispensables à la société ? De ce point de vue, la crise du Covid a clairement montré que c'est grâce à celles et ceux qui soignaient, qui nettoyaient, qui distribuaient, qui maintiennent le lien social, grâce à celles et ceux qui exerçaient ces métiers mal connus, reconnus et mal payés, que la société a tenu. Il y aura d'autres crises sanitaires et d'autres guerres, tandis que, comme nous le dit depuis 30 ans le groupement des experts internationaux pour le climat, nous sommes entrés dans une période de bouleversements climatiques et environnementaux irréversibles. Nous sommes maintenant le dos au mur. Que faire pour anticiper ces crises, pour nous protéger, pour rester soudés et solidaires les uns des autres, pour sauver l'humanité et la planète ? Quelles activités doivent être stoppées, remplacées ou réinventées ? Il y a plus de 30 ans, en 1987, émergeait le concept de développement durable qui, à l'opposé du système actuel, prônait un système socialement équitable, écologiquement soutenable et économiquement efficace. Dans cette logique, des mouvements dits altermondialistes comme Alternativa, ATTAC ou Action non violente COP21 ont vu le jour, qui reprennent le principe du développement durable et qui pensent qu'un autre monde est possible. Des structures bancaires d'économie sociale et solidaire comme la NEF ou le Crédit Coopératif se sont mises en place. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique et environnementale, ils nous proposent un autre modèle de société basé sur la coopération, l'entraide et le respect. Un monde où finalement les relations humaines sont plus importantes que les biens matériels. Et nous écoutons HK, alors on change.
Ça fait combien d'années qu'on alerte nos dirigeants ? Ils n'ont pas bougé, ils ne bougeront pas. Ok, alors on va faire sans eux.
Nos responsables, irresponsables, n'ont que faire de notre avenir. Préfèrent l'élection à venir, corvéables, corps et âme, à la solde des intérêts de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Comme c'est étrange, La planète peut bien suffoquer, ils répètent comme des perroquets leur blablabla devant les caméras. Larmes aux yeux et mains sur le cœur, applaudissez le jeune acteur. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. C'est la panique, cataclysmique. Les grandes firmes, la juste éthique, face au chamboulement climatique, à court d'essence et de bon sens. Leur cupidité n'a d'égal que leur bêtise monumentale. Voudrait qu'on court, qu'on reste sourd, qu'on fasse semblant de ne pas savoir, qu'on ferme les yeux pour ne pas voir leur coffre-fort, leur petit confort. Tout le reste est sans importance, la vie de nos gosses, ils s'en balancent. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. Pendant ce temps, c'est trop tentant de s'exiler au paradis où l'argent propre est interdit. C'est l'occasion, c'est l'évasion des îles Marshall à Macao, du Panama à Tobago. Alerte rouge, personne ne bouge, à part quelques fous en vélo, alter mondialiste écolo, sonneur d'alerte et fier de l'être. C'est le système qu'il faut changer, c'est lui qui nous met en danger. Alors on chante,
alors on chante.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
On n'a pas de terre de chance, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance,
alors on, se lance.
On laisse plus faire.
On laisse plus faire.
On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Et détention.
La justice est un sujet très vaste et nous l'avons abordé par le thème de la détention, de la garde à vue à travers le témoignage de René Frény, écrivain, à la prison avec Rosana Lamdon, avocate et membre de l'Observatoire international des prisons. La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction lors d'une enquête judiciaire. Elle permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier ses déclarations. Mais elle peut aussi servir à apaiser le trouble social en montrant que les pouvoirs publics s'informent sur l'infraction qui vient d'être commise. La durée de la garde à vue est limitée. Le succès a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d'être assisté par un avocat. Cependant, depuis plus de 30 ans, les grandes ONG de défense des droits humains dénoncent chaque année en France les conditions indignes et inhumaines dans lesquelles se déroulent les gardes à vue. Dans un rapport paru en septembre 2021, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté rend compte d'une enquête menée dans une dizaine de lieux de garde à vue de la police nationale. Elle mentionne la totale indignité des conditions d'accueil dans les locaux de garde à vue de cette police. Les prisons, quant à elles, sont des lieux de privation de liberté dans lesquels la société enferme des individus pour se protéger de leur action, dans l'attente de leur procès ou après le jugement qui les a condamnés. En raison notamment d'un manque de moyens et de volonté politique, les détenus subissent, au-delà de la privation de liberté, d'autres peines, qui sont liées à la surpopulation carcérale, à la promiscuité, à la violence, à la vie dans des locaux vétustes, au non-accès dans des délais raisonnables à certains soins, à des discriminations. De plus, ces conditions de détention empêchent, dans de nombreux cas, une réinsertion qui devrait être un but à cet enfermement et favorise une replongée dans la délinquance à l'issue des peines. Toute société doit prendre soin des victimes et de leurs proches, mais pourquoi tolère-t-on que la prison soit dans certains cas Ce lieu de pratique inhumaine et dégradante, au mépris du respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes. Que d'idées reçues sur les prisons, alors que dans les faits, la réalité de ce qu'il y a derrière ces murs est souvent ignorée. Certaines réflexions sont engagées pour faire émerger un droit pénitentiaire, permettant un contrôle effectif des conditions de détention et une réflexion sur le sens de la peine. On peut évoquer une citation généralement attribuée à Albert Camus, « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons. » Et pour illustrer la justice, une chanson sur une erreur judiciaire, « Here's to you, Nicolas and Bart » de John Baez. Prochaine thématique, Renaud, le handicap mental.
L'expression « handicap mental » qualifie à la fois une déficience intellectuelle et les conséquences qu'elle entraîne au quotidien. Il se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication, de décision. Ces difficultés doivent être compensées par un accompagnement humain, permanent et évolutif, adapté à l'état et à la situation de la personne. Et c'est à la solidarité collective qu'il appartient de reconnaître et de garantir cette compensation. La personne porteuse d'un handicap mental est un individu à part entière, une personne à la fois ordinaire et singulière. Ordinaire parce qu'elle connaît les mêmes besoins que tout le monde, parce qu'elle dispose des mêmes droits et qu'elle accomplit les mêmes devoirs. Singulière parce qu'elle est confrontée à plus de difficultés que les autres personnes du fait de son handicap. La France compte aujourd'hui environ 3,5 millions de personnes handicapées, dont 700 000 se trouvent en situation de handicap mental. Et chaque année, entre 6 et 8 000 enfants naissent avec un handicap mental tel que la schizophrénie, la trisomie, les troubles de la personnalité, les névroses ou les troubles bipolaires. Les causes peuvent en être d'ordre génétique, congénital ou accidentel. À différents titres, Le handicap mental nous fait peur, sans doute parce que nous ne le connaissons pas. Les personnes handicapées sont différentes de nous. En leur présence, nous sommes gênés, partagés entre l'envie de détourner le regard et la compassion. Et de ce fait, elles sont souvent rejetées. C'est pour cela qu'il est important de parler du handicap mental pour nous informer, mais aussi pour ouvrir notre cœur. Fin 2022, nous avons rencontré plusieurs membres de la communauté de l'Arche à Grasse. L'Arche est un centre médico-social qui accueille des personnes porteuses de handicaps mentaux. Un des principes fondateurs de l'Arche est que, pour développer ses capacités, ses dons ou pour se réaliser, chaque personne a besoin d'un milieu dans lequel elle puisse s'épanouir et tisser des liens avec d'autres au sein d'une famille ou d'une communauté, où elle puisse être reconnue, acceptée, soutenue par des relations chaleureuses et vraies. La mission de l'Arche est de faire connaître les dons, les points de vue et les modes d'interaction des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée et de leur permettre de prendre leur juste place dans la société. À l'Arche de Grasse, au numéro 78 de la route de Cannes, chacune et chacun d'entre nous est invité à partager un moment avec les résidents et les accompagnants qui cheminent ensemble au quotidien, à partager un moment d'amitié et de joie avec celles et ceux que la chanteuse Manique appelait les enfants soleil. Et nous écoutons maintenant Manique.
C'est un enfant qui ne sera jamais comme les autres. C'est un enfant pas tout à fait pareil. C'est un enfant soleil. Depuis longtemps, nous l'avons désiré. Depuis longtemps, nous l'avons dessiné. À l'intérieur de tous nos paysages. Et puis un jour, il est venu. Presque étranger, tout à fait inconnu, avec en plus un drôle de visage. Nous avons détourné le cœur un instant pour accueillir avec des pleurs notre enfant.
Parlons maintenant du thème des migrations.
Nous avons abordé la question des migrations sous deux aspects. Les migrations et sauvetage en mer avec SOS Méditerranée et l'accueil des migrants en France avec la CIMAD. Régulièrement, nous sommes informés de situations alarmantes, noyades de migrants en Méditerranée, exil des Ukrainiens ou déplacement des Soudanais fuyant des conflits armés, et de réponses politiques, opérations de destruction d'habitats précaires à Mayotte, renforcement des forces de sécurité, projet de loi asile et immigration. Depuis toujours, les migrations de population ont sillonné le monde. Certaines personnes se déplacent pour trouver un travail ou d'autres perspectives économiques, pour rejoindre leur famille ou pour étudier. D'autres se déplacent pour fuir un conflit, des persécutions, le terrorisme ou des violations des droits humains. Ce sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées. D'autres se déplacent face aux conséquences des changements climatiques, aux catastrophes naturelles ou à d'autres facteurs environnementaux. De nombreuses routes migratoires convergent vers la Méditerranée centrale pour parvenir aux pays européens. Or, c'est à ce jour la route migratoire maritime la plus mortelle au monde. Près de 20 000 personnes y ont péri depuis 2014. La situation s'aggrave et nous avons en mémoire les derniers naufrages lourds en pertes humaines. Face à l'urgence humanitaire en Méditerranée, et alors que les États européens se désengagent toujours plus de leurs responsabilités en matière de secours en mer et d'accueil des personnes en détresse, des associations, des personnes de la société civile, des collectivités territoriales s'engagent. Au-delà du secours à certains exilés, comment aider à déconstruire les idées toutes faites sur la migration qui sont des freins à la solidarité? L'immigration se situe dans un contexte politique et économique, mais derrière ces situations générales se trouvent des personnes face à des situations difficiles qui entament un périple d'exil. Ces défis de l'accueil des autres nous confrontent à des choix. Hospitalité, fermeture des frontières, soutien des pays de départ. La question est complexe et les réponses multiples. Selon Jacques Derrida, philosophe, une bonne politique de l'hospitalité sera le lieu d'un compromis incessant entre la demande d'accueil et les conditions politiques de l'immigration. Et pour illustrer ce thème, nous avons choisi une chanson de Tiken Jaffa Coli, Où aller où ?
Je ne sais pas où aller. J'ai vendu mon bateau, ici il n'y a plus de poissons. Et j'ai vendu mon âme, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vendu ma femme, mon amour, mes enfants, pour ne pas mourir à mon tour. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où. J'ai dormi sans étoiles, ici le ciel est noir. Et j'ai volé du pain, la terre était trop sèche. C'est du sang qu'elle boit et nos bras qu'elle mange. C'est la faute à qui si je suis hors la loi. Où aller? Où aller? Où aller? Où? Je ne sais pas où aller. Sans boussole et les cris de ma mère par-dessus mon épaule. J'ai pris mon élan une fois, dix fois, sauté par-dessus les cris comme papa. Où aller? Où aller? Où aller? Où? Je ne sais pas où aller. Wanga, la mer est une tombe. Elle ne te donnera pas son bras si tu tombes. J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille. Mais elles ont fait tomber toute ma famille. Yeah, yeah, yeah. Où aller? Où, où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Où aller? Où aller? Où aller?
je ne sais pas où aller. Puis je me souviens plus, j'ai été réveillé par une voix sèche qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan, on m'attendait la mer, mais elle portait des gants. Où aller? Je ne sais pas où aller. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller.
Nous poursuivons l'émission Parlons des droits humains avec le thème Présomption d'innocence et médias.
Au cours des dernières années, un certain nombre d'affaires liées à des violences sexuelles ou à des faits de société ont occupé plus ou moins longtemps la une des médias français. Je pense ici aux affaires Bayou, Hulot, Poivre d'Arvor, à la pédophilie dans l'Église catholique ou à la gestion de la crise du Covid. Chaque fois, le scénario est le même. Sitôt l'affaire dévoilée, un vent de lapidation véhiculé par les médias, les réseaux sociaux, les politiques s'abat sur la France. La machine politico-médiatique s'emballe. Le procès de l'accusé est déjà fait et la sentence tombe. Il ou elle est coupable. Ces affaires mettent en lumière le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'une affaire sort, avant même qu'un dossier soit instruit en justice, les faits, les détails, les tenants et aboutissants, ce que vous devez en penser et le verdict que vous devez prononcer sont à la une de nombreux médias, exacerbés par les lobbies politiques et confessionnels de tout poil. Et la vox populi condamne ou affranchit, sur la base de l'émotion, de quelques éléments puisés ça et là, mais assez rarement sur la base d'un travail approfondi des autorités policières et judiciaires. Ainsi, qu'en est-il de la présomption d'innocence, celle qui fonde le droit français en la matière? Qu'en est-il du secret d'instruction, de la sérénité de la justice? Qu'en est-il du respect dû à chaque personne? Mais qu'en est-il également de la liberté d'informer et de la liberté d'expression, de la nécessité de mettre au grand jour des scandales politiques ou des violences sexuelles trop souvent étouffées? L'ouverture d'une enquête judiciaire empêche-t-elle les journalistes de mener leurs investigations de leur côté? Et quelle conception de l'innocence règne dans l'univers des médias? Bref, comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui déraille et que faut-il redresser ou changer? Ces questions, nous devons toutes et tous nous les poser. En janvier dernier, au cours d'un débat animé et passionnant, l'avocate pénaliste Françoise Cotta et le journaliste et syndicaliste Jean-François Théaldi nous rappelaient, d'une part, que la présomption d'innocence et la charge de la preuve, mais également le droit à l'information et le secret des sources, étaient des éléments fondamentaux d'une société démocratique. Et ils nous rappelaient également que c'est à travers l'éducation à la maison, mais particulièrement à l'école de la République, que ces éléments fondamentaux doivent être acquis. Et dans ce sens, nous écoutons de Jean Ferrat, Ma France.
Accord à côté, sur.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cet air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle l'âme du vieil Hugo, tenant de son exil. Des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Celle qui construit ici de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. Ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. L'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Nous passons maintenant au thème des enfants.
Deux prismes pour évoquer le thème des enfants, le soutien et l'aide à des enfants dans une dimension nationale et internationale avec l'ONG ADE, les Amis des Enfants, et la philosophie à l'école comme aide au vivre ensemble avec l'association Sève. L'Assemblée des Nations Unies a adopté le 20 novembre 1959 la Déclaration des droits de l'enfant. Parce que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée. Parce que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même. De nombreuses structures locales, gouvernementales, organisations internationales ou associations œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfance pour faire respecter les droits fondamentaux de chaque enfant en matière de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Tout le monde peut reconnaître la nécessité de protéger les enfants et leurs droits, mais comment leur apporter soutien sans dériver vers l'assistance et les conduire à un statut d'adulte responsable et autonome? Comment pallier les carences gouvernementales de certains pays sans tomber sans le piège de déresponsabilisation de ces États? Comment faire évoluer ces aides dans un monde en bouleversement économique, environnemental et en guerre dans de nombreux points du globe? Ce sont des réponses à ces questionnements qu'ont apporté les associations intervenantes. Une réponse éducative pour les aider à se développer dans un vivre ensemble positif et l'approche de la philosophie et l'instauration du débat à l'école. Au-delà des objectifs fondamentaux de maîtrise de la langue, ces pratiques visent une meilleure intégration de l'élève à la vie de l'école. Elles permettent ainsi l'acquisition des compétences participant à la formation de futurs citoyens, autonomes et responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. En effet, l'éducation n'est pas seulement l'apprentissage et l'acquisition de savoirs fondamentaux, mais doit permettre de donner à l'individu la liberté de penser et d'agir. Se connaître, apprendre à échanger avec les autres, font partie du chemin pour un meilleur vivre ensemble. Vivre de manière harmonieuse, c'est partager des valeurs communes et exprimer notre humanité par des marques de respect et d'empathie avec les autres. Et pour illustrer ce thème, Kids United, on écrit sur les murs.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit
seulement gravé pour ne pas oublier, pour tout changer.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages
métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
De ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Autre thème qui concerne les enfants, mais pas uniquement, l'éducation et plus particulièrement l'éducation au Burkina Faso.
L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que toute personne a droit à l'éducation et que celle-ci doit être gratuite pour l'enseignement élémentaire et fondamental. Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Cependant, de nombreuses ONG nous rappellent que, si l'éducation est un droit inaliénable, plus de 57 millions d'enfants à travers le monde en sont actuellement privés et ne peuvent pas aller à l'école. Les principaux obstacles sont, d'abord, le manque de financement pour l'éducation. Les dépenses publiques représentent environ 4,3% du produit intérieur brut des États. Mais cette moyenne cache des différences considérables, de 14,7% du PIB pour les Samoa d'Amérique contre 0,3%, soit 50 fois moins, pour la Somalie, un des pays les plus pauvres du monde. Mais les raisons sont également la pauvreté et les inégalités, le travail des enfants, les mariages et les grossesses précoces, les discriminations, le handicap et les violences liées aux conflits. On estime aujourd'hui que 50% des enfants en âge de fréquenter l'école primaire et qui ne sont pas scolarisés vivent dans des zones touchées par un conflit. L'Afrique est durement touchée par la déscolarisation. Plus de la moitié de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne. Et récemment, un instituteur en école primaire au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, analysait les difficultés auxquelles faisait face le système éducatif dans son pays. Manque de matériel didactique, bâtiments et mobilier scolaire insuffisants, conditions de travail très difficiles des enseignants, mais également fermeture des écoles et déscolarisation des enfants du fait du terrorisme et de l'insécurité qui frappe le pays. Il y a également une absence de conviction des parents sur le bien fondé de l'école. Des parents qui trouvent que l'école est chère et qui préfèrent parfois que leurs enfants aillent travailler au champ ou dans les sites d'orpaillage plutôt que d'aller à l'école. À côté de cela, l'éducation occupe néanmoins une place importante dans les politiques de développement au Burkina Faso, dont les gouvernements successifs ont lancé plusieurs programmes pour essayer d'améliorer les effectifs et les moyens des enseignants ou pour le soutien socio-éducatif des mères en charge d'enfants scolarisables. Annelise Chalamon de l'association Synergie Burkina nous rappelait dernièrement que l'enjeu de l'accès à l'éducation au Burkina Faso comme dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest passe d'une part par la mise en place de filières de formation professionnelle technique et d'autre part et surtout par la résolution de la triple équation alimentaire, sanitaire et sécuritaire dans cette partie du monde. De fait, la tâche reste considérable et une bonne partie de la solution dépend de la volonté politique des puissances économiques du Nord. Nous écoutons une chanson de Paul Cornec, « J'aimerais mieux aller à l'école ».
Dans couronne, sa maison incendiée. En Macédoine, sans vue se réfugier. Avec son âne, s'est livré ses cahiers. Dans sa cabane, une envie de crier. Ma parole, c'est pas le bol, j'aimerais mieux aller à l'école.
Notre dernier thème sera « Femmes engagées en Turquie ».
Sociologue, écrivaine et politologue turque, Pınar Selek est connue pour ses écrits sur les mouvements sociaux et les groupes opprimés en Turquie. Dans le cadre de ses travaux de recherche à la fin des années 90, elle est amenée à rencontrer les opprimés de la société turque, homosexuels, transsexuels, prostituées, kurdes, arméniens. Elle précise qu'elle avait une volonté de les connaître et de mieux se connaître elle-même en vivant avec eux. En juillet 98, elle est arrêtée par la police turque qui lui demande de livrer le nom de ses contacts et elle est soumise à des actes de torture lors des interrogatoires. Puis, emprisonnée, Pınar Selek vit dans des conditions de détention très précaires mais noue des relations privilégiées de solidarité et d'entraide avec les autres prisonnières, toutes détenues politiques, pour déplacer les murs selon ses termes. Depuis 25 ans, elle est victime d'une des affaires judiciaires les plus emblématiques de la répression que subissent intellectuels, universitaires, étudiants, artistes et journalistes en Turquie. Accusée d'avoir collaboré à un attentat à Istanbul, qui s'est avéré être une explosion accidentelle liée au gaz, Pınar Selek a été jugée 4 fois et 4 fois acquittée. Mais à 4 reprises également, la Cour de cassation turque a fait appel et en janvier 2017, le procureur a demandé la réclusion criminelle à perpétuité pour faire taire cette voix qui défend les opprimés et les exclus. La décision de la Cour suprême turque a été repoussée au-delà des élections cette année, dont les résultats ont reconduit Erdogan président. La prochaine audience aura lieu le 29 septembre 2023. Pınar Selek a dû fuir la Turquie et partir en exil en Allemagne puis en France. Elle a obtenu l'asile politique et a acquis la nationalité française. Militante, féministe, antimilitariste, elle questionne la structuration et l'institutionnalisation de la violence. Elle écrit, elle est auteure d'une dizaine d'essais sociopolitiques et de romans dans lesquels elle analyse les vicissitudes et les espoirs de la société turque. Elle est et elle demeure une figure de résistance à l'oppression et à la défense des opprimés. Nous allons entendre une chanson kurde dont le titre se traduit par « Fille kurde » et qui raconte l'émancipation de cette femme. Interprétée par Einur Dogan, Kese Kurdan.
Jackie.
Et bien voilà, cette rétrospective de l'année radiophonique se termine. Bien sûr, elle est loin d'être exhaustive, tant les atteintes aux droits et à la dignité des hommes, des femmes et des enfants sont nombreuses et constantes. Mais chacune et chacun, ici ou là-bas, peut faire le constat que nous sommes loin de vivre dans un monde qui respire la liberté, l'égalité et encore moins la fraternité. Et cela nous concerne tous. Au cours de cette nouvelle année, nous nous attacherons à donner la parole aux associations et organisations qui, localement, dans les Alpes-Maritimes ou en France, mènent le combat pour le respect des droits humains, ici et ailleurs. Et bien sûr, s'il y a des thèmes que vous souhaitez voir abordés, vous pouvez nous en faire part en nous écrivant à redaction@agoracotedazur.fr. Pour l'heure, nous vous remercions toutes et tous de votre écoute. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission que vous pourrez télécharger en allant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains qui aura lieu le lundi 16 octobre prochain. Très bonne soirée.